Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro de Rétro Otaku, votre JT du Rétro Gaming. Comme tous les mois, on découvrira le dossier, le test et le Rétro Dico. Mais on commence tout de suite avec les news, et c'est les éditions Pix & Love qui nous sortent ce mois-ci un nouvel ouvrage consacré à la firme Nintendo. Dans le premier volume, on parlait des jeux de société et des jeux de cartes. Dans ce nouvel opus, on parlera des Game & Watch. On découvrira aussi Gunpei Yokoi, un personnage extraordinaire qui a révolutionné le jeu vidéo grâce à sa fougue et à son imagination. Le reste des news en images.
Street Fighter 4, sorti en 2009 sur Xbox 360, PS3 et PC, a su relancer le jeu de combat sur nos consoles de salon. Darkstalker profite de cette vague pour revenir. Cette excellente série de Capcom, sortie dans les années 90 sur arcade, présente des personnages inspirés des contes et légendes fantastiques. Une version remasterisée nommée Darkstalker Resurrection arrive en téléchargement sur PSN et Xbox Live Arcade début 2013. Elle contiendra les épisodes Night Warriors et Darkstalkers 3. A noter qu'un tout nouvel épisode a été annoncé pour les consoles Next Gen lors de la Comic-Con 2012. La Edge Convention 2.0 se tiendra le 8 décembre prochain à Villejuif, près de Paris. Pour une entrée de 10€, vous pourrez profiter de consoles rétro, de bornes d'arcade jouables, participer à des jeux concours avec de nombreux lots à gagner. Vous pourrez aussi rencontrer quelques personnes du milieu du rétro gaming, comme Mea, notre testeur de jeux anciens, ou encore Florent Gorge des éditions Pix & Love. N'hésitez pas à vous préinscrire sur le site officiel de l'événement, les places sont limitées. Moron Twins est un groupe de développeurs espagnols fans du ZX Spectrum, micro-ordinateur des années 80. Leur dernière production se nomme Maritrini, Freelance Monster Slayer, la préquela. Ce jeu, mêlant aventure, action et exploration, vous confrontera à la famille Fratellis. Souvenez-vous, ce sont les méchants dans le film Les Goonies. A noter que Moron Twins a réalisé ce jeu en utilisant pour la première fois un nouvel outil de développement pour ZX Spectrum appelé Super Babazoominator Construction Kit. Développer un jeu sur une vieille machine pour son fils, est-ce une preuve d'amour paternel? Pour nous, oui. Daniel Kosminski, alias Deli, développe actuellement un jeu sur micro-ordinateur Atari XL où vous contrôlez un hélicoptère devant arriver à bon port sans s'écraser. Ce jeu s'appelle AGFFY. Ses lettres signifient A Game for 4-Year-Old. En français, un jeu pour les enfants de 4 ans. Explicite, non? Baldur's Gate fait partie de ces jeux de rôle inspirés de l'univers Donjons et Dragons. Édité par BioWare en 1998, Baldur's Gate fit chavirer le cœur de bon nombre de joueurs. Une suite encore plus belle vit le jour en 2000. Mais c'est le premier épisode qui sera remasterisé grâce à une version dite améliorée, contenant bonus et nouveaux personnages comme Rasa d'Isvasnir ou Nira, demi-elfe mage. Ce remake, prévu pour novembre 2012 sur PC, iPhone et iPad, est déjà disponible en précommande sur le site officiel pour la somme de 19,99€.
Des tortues rendues humaines par un liquide appelé mutagène et entraînées par un maître ninja transformé en rat, il s'agit bien sûr des personnages d'un comics de Kevin Eastman et Peter Laird, les tortues ninja. Après une première version en 1989 sur NES, voici le test de Turtle in Time sur Super NES.
Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtle in Time sur Super Nintendo est l'adaptation éponyme du jeu d'arcade de 1991 qui pouvait se jouer jusqu'à 4 en même temps, sur la même board, chacun utilisant une tortue entre Leonardo et ses sabres et Donatello et son bâton. Et les deux autres, qu'on ne prend jamais, personne ne veut les prendre. L'histoire est tout bête, hein. Shredder et son clan de la savate ont kidnappé la Statue de la Liberté pour en faire un presse-papier. Enfin, je crois. Et pour une fois, c'est la version console qui est supérieure à l'original. Déjà, on sent bien les coups, mais surtout, nous avons des niveaux supplémentaires, dont la fameuse bataille du point de vue de Shredder, où on lui envoie ses propres soldats dans la tronche. La musique est excellente et nous retrouvons tous les personnages de la série. Laserhead, Baxter, le roi des rats, Bebop et Rocksteady, et même Razar et Toka tirés du second film. Nos tortues possèdent également une multitude de coups, et nous avons aussi une multitude d'ennemis, qui ne se ressemblent pas trop en fait. Les décors changent d'un niveau à un autre avec la préhistoire, le Far West, les pirates et le futur. Et je vous ai déjà dit que la musique était excellente. Il existe également une version Mega Drive sur les voyages dans le temps et avec des niveaux totalement différents, mais le cœur des joueurs balance toujours vers la version Super Nintendo. Ajoutez à cela une fin différente en fonction de la difficulté, de la musique épique, ça je l'ai déjà dit, et une version profitant à fond de tout ce que pouvait nous donner la Super NES en son temps. Teenage Mutant Ninja Turtle 4, alias Turtle in Time, est vraiment un jeu à posséder absolument, et en plus, on peut y jouer à deux en même temps.
On poursuit cette édition du JT avec le dossier, et cette fois-ci, c'est deux sujets que nous aborderons. Tout d'abord, les Street Hack, ou les versions pirates de Street Fighter Made in Taiwan, et puis la fameuse borne de démonstration Made in Nintendo, le M82.
Qui ne connaît pas Street Fighter ? Cette série mythique commença avec un premier épisode en 1987 sur arcade et reste la référence du jeu de baston depuis 1991 avec Street Fighter 2. La saga a connu de multiples épisodes avec des noms à rallonge comme Street Fighter 2 Prime Turbo Hyper Fighting, des rééditions, des suites sur quasiment toutes les consoles de salon et même sur PC. Beaucoup de joueurs connaissent par cœur donc les coups spéciaux de Ryu, Ken, Chun-Li ou encore Guile. Mais peu connaissent l'existence de versions pirates de Street Fighter 2 comme Street Fighter 2 Koryu ou encore Rainbow développé par des amateurs. Tout commence à Taïwan avec Street Fighter 2 Rainbow. En regardant cette mouture, on voit Street Fighter 2, mais ce n'est pas Street Fighter 2. En effet, tout le jeu est chamboulé. Plus rapide, des coups spéciaux illogiques, des couleurs modifiées, des décors avec des bugs graphiques et surtout des personnages dont la jouabilité change complètement. Par exemple, le Shoryuken de Ryu et Ken va envoyer plusieurs boules de feu rendant ainsi le coup beaucoup plus puissant. Il n'est plus besoin de charger pour envoyer des Sonic Boom de Guile, juste un enchaînement rapide des commandes arrière et avant pour lancer le ou les projectiles. Certaines boules de feu peuvent même être à tête chercheuse, terrifiant. Et pour les connaisseurs, le fait de tapoter rapidement le coup de poing fera foncer Blanka vers son adversaire très rapidement tout en étant électrifié. Tous les personnages possèdent leurs propres nouveautés et si jamais vous souhaitez changer de personnage en cours de combat, il vous suffit d'appuyer sur Start tout simplement. L'autre version, Koryu, possède d'autres changements mais contient beaucoup de similitudes avec la version Rainbow. La légende veut que les versions pirates ont inspiré Capcom qui en a profité pour améliorer la série des Street Fighter 2 avec la possibilité d'augmenter la vitesse de jeu ou de sortir le Tatsumaki possible en l'air pour Ryu et Ken à partir de l'épisode Street Fighter 2 Prime Turbo. Pour l'histoire, sachez qu'en Espagne, les versions pirates de Street Fighter 2 sont arrivées avant la version normale. Les jeunes Espagnols ont découvert les versions normales bien après, et beaucoup préfèrent ces versions pirates plus fun et complètement décomplexées. Aujourd'hui, le dernier épisode, Street Fighter 4, sorti en 2008, a eu aussi l'honneur de connaître une version Koryu disponible sur PC. Ce sont bien entendu des amateurs qui ont travaillé le code du jeu sur PC sans que Capcom ne porte plainte. Un geste classe de la firme japonaise qui respecte l'histoire d'un piratage qui fait évoluer sa série VAR vers le haut. Allez, on continue ce dossier du mois avec le M82. Les fans de Mario connaissent tous la NES sortie à la fin des années 80. Mais pour ceux qui en ont eu marre de changer la cartouche de leur console préférée, il y a eu le M82. Véritable curiosité pour les uns, ou objet de collection pour d'autres, cette imposante unité de démonstration était réservée au commerce pour faire la promotion des nouveaux jeux. Le M82 dispose de 12 slots d'insertion de jeux. Le joueur passe de jeu en jeu en appuyant sur le bouton situé en façade. Pour le jeu, 5 ports manettes sont installés, ce qui rendait possible le jeu à 4 avec un zapper à côté. Le zapper, c'est le pistolet, vous savez. Pour le branchement vers le téléviseur, on pouvait passer soit par du RCA avec un son mono, soit par la prise d'antenne. Une autre curiosité est le timer situé à l'arrière. On pouvait le régler de 30 secondes, 3 minutes, 6 minutes ou 128 minutes. Une fois le temps écoulé, le jeu se coupe et revient au menu d'allumage. Une bien belle machine.
Et vous le savez maintenant, tous les mois, le Rétro Dico vous permettra de découvrir un mot de l'univers du rétro gaming. C'est en 45 secondes, c'est par notre ami Tony. Et ce mois-ci, on parle des cartouches.
La cartouche est pour le néophyte l'ancêtre du CD ou du DVD qui est massivement répandu dans les consoles de salon d'aujourd'hui. Le concept a été repris dans certaines consoles récentes, à la différence près que les jeux n'étaient pas stockés sur de la mémoire flash, comme aujourd'hui, la mémoire des clés USB par exemple, mais massivement sur des ROM ou des EPROM, la mémoire d'antan. Ces petits concentrés d'électronique qui étaient réputés pour leur solidité à toute épreuve ont été abandonnés au profit des disques numériques qui ont un coût de fabrication moins élevé à quantité de mémoire équivalente. Les plus anciens d'entre vous se souviendront sûrement de longues soirées à souffler sur nos cartouches pendant des heures pour retirer la poussière pouvant empêcher les jeux de se lancer.
Et voilà, c'est la fin de ce deuxième numéro de Rétro Otaku, votre JT du rétro gaming. Si vous voulez nous faire part d'une actualité, n'hésitez pas à nous contacter par mail jt@retrotaku.com ou à visiter notre site internet retrotaku.com. On se retrouve le mois prochain. Ciao.